Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites « la carte passe est gratuite ?»
Eh oui, votre carte de crédit passe est gratuite la première année, dès sa toute première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 17 février pour toute souscription en agence Carrefour Banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque et Assurance. Réservé aux particuliers majeurs, choix du paiement comptant ou crédit, délai légal de rétractation de 14 jours, modalité complète sur carrefour-banque.fr.
Vous écoutez
RMC.
Fabrice,
salut les gars.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu nous as appris ça il y a maintenant une heure à peu près. Pierre Sage n'est plus le coach de l'OL. Donne-nous les infos.
Eh bien, il a appris aujourd'hui. Hein, il a appris aujourd'hui. C'est Jen Textor qui lui a dit. Il s'en doutait un petit peu. On vous l'expliquait aussi dès hier soir sur RMC Sport. Il y avait vraiment de grandes chances qu'il soit écarté. C'est donc arrivé après son cinquième match consécutif sans victoire. Hier, match nul à Nantes. Il y a eu aussi l'élimination face à Bourgoin-Jallieu en Coupe de France qui a fait beaucoup de bruit et forcément qui a déplu aux propriétaires. Alors, il y a eu des tractations toute la journée, des bruits de couloir, et finalement c'est tombé comme un coup près. Il est écarté, lui et une bonne partie de son staff. On ne sait pas encore qui exactement, mais Rémi Vercoutre par exemple, qui fait partie de sa garde rapprochée, devrait lui aussi s'en aller dans l'entourage de Jen Textor. Alors, on explique ce soir que cette décision n'est pas prise sur un coup de tête, qu'elle n'est pas due seulement aux mauvais résultats de ces derniers jours. On avance une stratégie plus globale. Et dans les faits, le successeur probable de Pierre Sage, c'est Paulo Fonseca, le Portugais. Il a été contacté depuis déjà plusieurs mois. C'est lui qui
plusieurs
devrait,
mois
Oui, bien sûr. Ah ouais. Ça fait plusieurs mois qu'ils échangent, qu'ils discutent. À l'époque, d'ailleurs, quand ils ont commencé les premiers échanges, ça se passait plutôt bien pour l'OL et pour Pierre Sage sur le terrain. Mais il y avait déjà cette volonté à court, moyen terme.
Mais la première fois que le contact, c'est pour Botafogo.
Oui, exactement. Mais il y avait déjà dans sa tête, en tout cas, la volonté de l'enrôler. Et moi, ce qu'on me dit dans l'entourage de Pierre Sage, de Jen Textor, pardon, c'est vraiment que cette décision, c'est pas qu'elle est prise depuis plusieurs mois, mais il y a une vraie volonté de travailler avec quelqu'un d'autre de la part du propriétaire. Donc, les échos qu'on a ce soir aussi, c'est que il va pas forcément arrivé pour le match de jeudi, Paulo Fonseca, match d'Europa League contre Ludogorets. Quelqu'un pourrait assurer l'intérim. Il y a le bruit de Georges Maciel, qui est un des adjoints de Pierre Sage, deuxième adjoint en charge de l'entraînement. C'est peut-être lui qui pourrait assurer l'intérim. Et puis, messieurs, il y a quelque chose aussi qu'on va guetter avec beaucoup d'attention, c'est la réaction des joueurs, parce que autant Textor, il ne soutenait pas, et on l'a vu, Pierre Sage, autant les joueurs, certains étaient quand même assez attachés à leur entraîneur. On va notamment guetter la réaction d'un joueur comme Nemanja Matić, qui ne cachait pas ces derniers jours que voilà, si Pierre Sage partait, lui aussi pourrait partir. On sait qu'il y a un intérêt de Koum avec entraîné par Cesc Fabregas, donc on va aussi guetter un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'effectif.
Donc ça pourrait changer la dernière semaine de mercato. Certains joueurs pourraient dire, moi je ne sais combien pas, je me tire.
Exactement.
Bon. Les gars, qu'en pensez-vous? Et je précise que Yann Crochet est là, il a vu Fonseca à Milan ces dernières semaines, et il va nous raconter comment ça s'est mal passé. Salut Yann.
Salut à tous.
Alors, avec Fabrice est dessus depuis pas mal de temps, et c'est rare, parce que la plupart du temps, on est...
Si vous entendez des grésillements, c'est le téléphone de Fabrice Hawkins qui sonne toutes les deux secondes, parce que c'est Mercato, c'est normal.
Sur ce dossier, c'est assez rare, mais on a été l'espace de quelques heures, et notamment quand on en avait parlé, un peu en désaccord, parce que, effectivement, dans un... premier temps, il n'avait pas tout de suite été contacté pour ça. Fabrice avait raison. Et surtout, parce que ça, il faut le préciser, Fabrice, je pense que tu seras d'accord, s'ils avaient battu Nantes, c'est pas évident qu'ils soient limogés aujourd'hui. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre dans cette décision, c'est que aujourd'hui, on peut le dire, puisqu'il n'est plus en poste, Pierre Sage est quand même quelqu'un avec qui on parle, lui-même
qui est venu dans l'after
se savait après que tu m'aies dit si tu devrais faire attention parce que je ne voulais pas tellement prendre cette rumeur au sérieux et que tu m'as dit fais-le quand même.
Bon, on m'a dit la décision était prise même avant le match de Nantes.
Oui.
De le sortir.
Il aurait été emmerdé avec les résultats. Et Pierre Sage lui-même pensait bon d'abord il y a eu le match à Fenerbahçe, j'ai pas gagné. T'as vu l'explication à la fin à la conférence de presse. Oui, j'ai pas voulu prendre le risque de. Et il a dit, il m'avait dit avant le match de Fenerbahçe, maintenant si on gagne trois matchs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il me vire quand même? Et là, il y avait un suspense à ce niveau-là, ce qui quand même est un petit peu curieux quand on envisage une gestion de façon un peu plus globale. Est-ce que si t'as vraiment pris la décision, et je pense que effectivement c'était dans sa tête depuis longtemps, est-ce que tu ne le fais pas parce que le mec gagne trois matchs? C'est quand même un petit peu curieux comme façon de procéder. Je préfère l'idée qu'il y a depuis longtemps, il avait envie de le faire et qu'il attendait le moment et que donc il a attendu une baisse de résultats pour le faire. J'aimerais que ça s'inscrive dans la tête de Textor dans quelque chose de plus gros, parce qu'on va en parler dans un instant, il le remplace pas par un guignol, il le remplace par un très bon coach quand même, qui certes, Johan va l'expliquer, n'a pas réussi à Milan, mais c'est une affaire également de contexte, mais ça n'enlève rien aux qualités de Fonseca quand même, donc il le remplace par un très bon coach. C'est la façon de faire qui est propre à ce président-là, qu'il va falloir décrypter maintenant.
Puis il faut se poser la question de savoir si finalement c'était si catastrophique que ça. Lyon est sixième à 4 points du podium. C'est pas
non, on l'a dit toute la semaine. Ils sont dans les clous.
Cinquième en Ligue Europa.
Ils sont dans les clous de la Ligue Europa en gagnant jeudi pour être top 8. Et ils sont dans les clous pour la Champions League. Mais clairement, dans les matchs, ça on peut pas le nier, il y avait une situation et des matchs qui étaient moins bons. Ça, c'est vrai.
Fabrice, donc Fonseca va arriver, donc t'as pas encore de timing, il pourrait signer dans les heures qui viennent peut-être, et puis être donc sur le banc, on va dire ce week-end.
Bon, ils attendent un accord total ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. On parle plus de la semaine prochaine, après vous savez comment ça se passe. Hein. S'il trouve un accord et qu'il signe ce soir, c'est possible qu'il y soit ce week-end, mais on parle plus de la semaine prochaine.
Alors on se rappelle de Fonseca qui arrive à Lille et qui explique qu'il va aller chez Ikea pour s'acheter des meubles. Entre temps, je sais pas s'il a pris ses meubles pour aller à Milan ou s'il va retourner au Ikea de Lyon, mais enfin à Milan en tout cas. Ça n'a pas été un succès comme ça. Enfin, à Lille, on peut dire que c'est une réussite globalement. Fonseca, ça a bien marché.
C'était une super réussite. Voilà.
Mais à Milan, non.
Plus compliqué. Alors déjà, il est arrivé. Daniel parlait de contexte. Il faut quand même se souvenir de son arrivée. Je fais très bref là-dessus. Quand il arrive parce que normalement, c'est Lopetegui qui doit arriver à Milan. Sauf qu'il y a une fronde des supporters sur le nom même de Lopetegui, parce que les supporters commençaient déjà à en avoir un peu marre, et donc ils font sauter Lopetegui, la révolte populaire des supporters fait sauter Lopetegui, et derrière, le Milan se retourne vers Fonseca. Sauf que le nom de Fonseca titillait pas plus que ça non plus les supporters, et donc il arrivait dans un espèce de mélange entre, pour les plus sympas, scepticisme, parce qu'il était aussi passé par la Roma, et on avait vu qu'à la Roma, il avait fait plein de bonnes choses, mais que contre les gros clubs, il n'y arrivait pas. À la Roma. Donc il y avait au mieux du scepticisme, au pire une colère déjà avant même qu'il commence.
Il faisait partie de ce qu'on appelle en Italie, et on a dit ça d'un mec comme Gasperini à un moment, hein, donc c'est dire à quel point on peut le dire de très bons coachs, de gars qui n'ont pas le caractère pour certains clubs. Voilà. Alors, est entré en Italie un peu dans cette catégorie-là.
Le caractère et aussi des limites tactiques qui pour moi existent encore aujourd'hui après son passage à Milan. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'avais vues à la Roma sous Paulo Fonseca et je voyais les mêmes problèmes au Milan sous Fonseca. Donc je pense que tactiquement, il y a des choses, et on sait qu'en Italie, la tactique, les entraîneurs sont hyper au point, les entraîneurs adverses sont hyper au point pour te faire déjouer. Et je suis pas certain après ce deuxième passage en Italie que Fonseca pourrait retenter une troisième fois parce qu'on a vu, les entraîneurs adverses ont exposé pas mal de limites. Parenthèse refermée. Ça s'est mal passé, oui, parce qu'il part avant la fin de la saison. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressaient chez Fonseca, au-delà de son amour du jeu, d'un discours très positif, de le fait d'expliquer ce qu'il voulait mettre en place, comment il travaillait. Il y a aussi, quand on parlait de caractère tout à l'heure avant son arrivée, moi, il a montré du caractère à Milan. Parce qu'à Milan, il s'est dit, c'est une formidable opportunité pour moi, quand même, de rejoindre un club comme Milan. C'est son plus gros club jusqu'à maintenant. Et il dit, mais je vais le faire à ma façon. Je vais pas faire comme on attend que je voudrais que je fasse. Je le fais à ma façon. Moi, j'ai des principes de jeu, des principes tactiques, des principes de travail collectif, de travail individuel à l'entraînement. Si vous ne le faites pas, mais je vous ferai aucun cadeau. Et que tu t'appelles Théo, que tu t'appelles Léao, que tu t'appelles Tomori, que tu sois des cadres du vestiaire, mon coco, si à l'entraînement tu montres pas que tu dois être titulaire et qu'à l'inverse, je vois des gamins de la Primavera ou des U23 qui débarquent et qui eux font les efforts à l'entraînement, c'est eux qui vont jouer. Et donc, très rapidement, dès la deuxième journée, après un match raté à Parme, où Théo et Léao, en gros, ils marchent pendant 90 minutes.
Voilà.
Il arrive et il dit, bah, non, moi, ça me va pas, ça.
Et
donc,
il faut...
Théo et Léao, la journée d'après, la troisième journée, sur le banc.
Et voilà, il faut quand même insister quand on va évoquer un échec à Milan. Il arrive dans un vestiaire qui est pas bon.
Oui, l'échec qui est relatif pour moi.
Vestiaire, exactement, je suis d'accord avec toi. C'est un vestiaire qui est pourri. Si vous voulez juste une preuve, je pense que tout le monde est au courant, Conceição avec son caractère volcanique, il en est venu aux mains avec Calabria, qui est quand même un joueur un peu tête de mule.
Je vous renvoie au podcast, c'est drôle de là, mais tout à l'heure.
Il est quand même un joueur tête de mule, sale caractère. Théo Hernandez est un joueur avec un sale caractère aussi, très dur à gérer, sans parler de Léao, qui, dans la Gazzetta, bon, je vais volontairement un peu abuser, mais Yann, si c'est pas un jour sur deux que t'as un article ou un papier sur laissez-le jouer comme il a envie de jouer. Non, c'est un con, non, c'est un mec qu'il faut cadrer.
Il y avait une longue interview en plus de lui où il disait,
À Lyon, j'ai la maturité.
Non, mais Léa, on se rend pas compte.
C'est pas que des enfants de cœur à Lyon. Rappelez-vous ce qu'avait dit Textor quand il était venu chez Jérôme. Il avait dit, j'avais pris Pierre Sage à l'époque pour apaiser les tensions du vestiaire. Donc c'est pas que des enfants de cœur. Et quand tu connais l'interventionnisme de Textor, plus le vestiaire lyonnais, ça laisse un peu perplexe par rapport à ce qu'évoque Johan sur Fonseca.
J'avais fait un avis récemment pour dire que ce serait une connerie de déconnecter Pierre Sage à ce moment-là de la saison. Donc je maintiens que je pense que c'est une bêtise. Quel que soit le nom du successeur, et même si Fonseca est un très bon entraîneur.
Vaut mieux que ce soit bien quand même.
Oui, mais je pense juste que l'arrivée de Fonseca, qui rôde autour du club depuis 10 jours, alors que Sage est toujours là, que moi changer de coach, je l'ai dit à Rennes, quand le vestiaire commence à se déconnecter du coach, ou que le coach a même fait partir certains joueurs dans le mercato d'avant, c'est une chose. Quand ton vestiaire ne t'a pas lâché, je pense que c'est un gros risque que prend Textor. Et que c'est pas gagné pour Fonseca, parce que c'est peut-être pas le vestiaire du Milan, mais cette prégnance lyonnaise, ces cadres, pas forcément simples à bouger non plus, comme justement la Lacazette, tout ça, Fonseca, il aura aussi à se le colter. Donc, tu arrives dans une situation où des joueurs comme Matic ou d'autres, Matic va peut-être partir, c'est pas forcément le cas le plus emblématique, on l'a vu, ça fait perdre des points à l'équipe, parce que moi je pense que les incertitudes autour des finances et de cette autour du coach ont fait perdre des points à l'équipe. Ça a eu l'effet inverse pour l'instant que de celui espéré par Textor. Donc je pense que pour l'instant, et dans le timing et dans la façon de faire, c'est pas un bon choix et ça va rendre les choses compliquées. Alors, maintenant, dernier point sur le long terme, si la seule bonne chose peut-être à avoir, c'est de se dire, tu veux un projet, et là Fonseca en aura un techniquement, tu veux mettre quelque chose en place, peut-être la fin de la saison, et mettre une autre équipe, d'accord. Mais sur le timing là, à ce moment-là du mois de janvier, alors que Pierre Sage, pendant un an, non seulement n'a pas démérité, mais il a plutôt bien géré le maintien, la finale de la Coupe, et même le début de saison.
Il a sauvé le club.
Je crois qu'on va tous être d'accord pour dire qu'on...
Alors Daniel, attends, permets-moi, parce que Johan et Fabrice vont nous laisser. Donc si vous avez vous deux un truc à rajouter,
moi je voulais justement parler d'un truc avec Fabrice.
Je peux rester.
Ah, tu peux rester 5 minutes de plus.
Très bien, magnifique. Alors dans ces cas-là, Johan, on va te laisser un dernier truc.
Ouais, juste un dernier truc. Moi, ce que j'ai aimé de Fonseca à Milan, c'est la volonté de bousculer un ordre établi, pas seulement dans le vestiaire, sur des habitudes de joueurs. Je veux dire, à un moment donné, les privilèges qu'avaient Théo et Léo avec Pioli, c'était plus possible. Tu peux pas fonctionner comme ça pendant X années. Ça fonctionne de temps en temps, mais quand Fonseca arrive, qu'il se rend compte des privilèges et qu'il veut les changer, forcément, ça chafouine un peu de l'autre côté. L'autre chose, c'est sur le plan du jeu. Parce que moi, on peut me dire que c'était pas formidable, comme avec Thiago Motta d'ailleurs. Il y a peu de choses formidables dans le football italien cette saison d'ailleurs en termes de jeu. Moi, je voyais des choses qui étaient travaillées, qui étaient reproduites sur le terrain. Ce que je ne vois pas aujourd'hui au Milan. On peut me dire qu'on sait ça, oui, il a gagné la Supercoupe. C'est vrai, il a gagné la Supercoupe avec des remontadas. Il fait encore une remontada ce week-end. Mais vous regardez les prestations du Milan. Parce que on a parlé du côté caractère de Fonseca. Mais sur le plan entraîneur strict, ça jouait mieux avec Fonseca. Vous regardez Milan, les joueurs ne savent pas quoi faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune structure.
Il a pris un boss de vestiaire.
Voilà, exactement. Ou c'est juste, sauf que le boss de vestiaire, il lui a fallu 4 journées de championnat pour dégoupiller. Pour se rendre compte que Théo et Léo, fallait les sortir à la mi-temps contre Parme. Que Calabria, fallait pas parler comme ça à son entraîneur. Que il y en a d'autres qui font n'importe quoi et qu'ils commencent à se dire, j'attends des joueurs sur le mercato parce que là, on a des vrais problèmes aussi en termes humains. Donc Fonseca, il faut voir son expérience à Milan et parler d'un échec relatif pour moi parce qu'il a essayé de mettre les choses en place. Absolument. Il y a des choses qui étaient travaillées. Mmh. Et moi, je suis persuadé. Là, tout le monde me dit contre Parme, ouais, mais avec Fonseca, ils auraient jamais remonté le score comme ça. Je leur réponds, ouais, mais ils auraient peut-être déjà mené 2-0 avec Fonseca.
Merci, Johan.